What is this, Connor? Easy, easy, old man. She's not hurt?
No.
Not wounded,
sir. It's
been a long time.
Yes, ma'am.
Mi conoscete?
Filumena.
Filumena.
Proprio non mi ricordate.
Menose fattissimo. Proprio fattissimo.
Bonjour à toutes et à tous les cinéphiles du vendredi, bonjour et bienvenue dans Cinémascope, le magazine qui ausculte l'actualité du cinéma en Sud-Ardèche avec ferveur. À l'affiche aujourd'hui du film qui claque, je pense. Allez, avec Olivier, salut Olivier.
Bonjour tout le monde.
René, alors qu'il n'est pas tout à fait d'accord, hein. Le film qui claque, c'est pour toi.
Je suis la Sainte Inquisition.
Ouais, absolument. Également avec nous Frédéric du Foyer à Rosières, salut Fred.
Bonjour à tous.
Bonjour à toi. On aura aussi par téléphone Alexis qui a enregistré tout à l'heure, là, ce matin, une petite chronique sur Projet Dernière Chance, donc Alexis que vous connaissez bien, qui est au Vivance, au Vence. Et puis bonjour aussi à Alexandre. Bonjour Alexandre.
Bonjour Sophie.
Que vous commencez à connaître sur Fréquence 7 et qui sera là aussi la semaine prochaine. Eh bien, on commence tout de suite. On va régler ce petit... cette question de Reminders of Him. Mais d'abord, on s'en donne un petit son dans l'oreille.
Je vais pas te demander de développer.
Salut, comment t'as eu mon adresse?
Je suis pas venue te voir toi. Il faut que je voie ma fille.
Ah, c'est toi. Va-t'en. Scotty était mon meilleur ami. Quand il est mort, on a tous décidé d'élever sa fille.
Comment elle ose revenir ici?
Sans elle, notre fils serait toujours vivant.
T'aurais pas dû revenir.
Je voudrais seulement connaître le petit être qu'on a créé avec Scotty.
Ouais, voilà, c'est ça. Vous entendez, donc ça rigole autour du micro. Mais que s'est-il donc passé dans la tête de René pour aller voir... Mais alors c'est vrai, on l'avait mis dans la liste des films qui sortaient. Reminders of Him, de Vanessa Caswell, qui est une Anglaise et qui adapte le roman de Colleen Hoover, bien connu, puisqu'elle fait de la romance, je crois. Et plusieurs films ont déjà été adaptés d'elle. Il n'y avait jamais plus et... Regretting You. Alors, c'est vrai que cette bande-annonce nous a mis un petit peu dans l'ambiance du film, je pense, mais on t'écoute. René, peut-être que tu vas défendre ce film.
Moi, je vous ai trouvé bien cruel. alors, Kenna et Scotty donc, vivent une relation amoureuse heureuse jusqu'à ce que Kenna provoque un accident de voiture au cours duquel Scotty va perdre la vie et Kenna va se retrouver en prison. 7 ans plus tard, Kenna retourne dans sa ville natale du Wyoming où elle espère se reconstruire et surtout retrouver sa fille Diem, née de son union avec Scotty. Les parents de Scotty, qui sont aussi les grands-parents de Diem, ont la garde de l'enfant et ils refusent tout contact avec Kenna. Sniff, sniff. Isolée, elle se lie d'amitié avec Ledger, propriétaire d'un bar local. Leur amitié évolue en une liaison secrète, mais les blessures du passé et les secrets longtemps gardés compliquent leur relation. Malgré ces difficultés, Kenna trouve peu à peu l'espoir d'une seconde chance. Voilà, on est rassuré. Alors, si on s'en tient...
Tu nous as résumé tout le film, là.
Ouais.
D'accord, mais ceci dit, s'il y a la bande-annonce... qui est très très longue, hein, qui dure 2 minutes 46, bah c'est tout le film. Moi, j'ai regardé tout le film. Le début jusqu'à la fin.
À peu près. Alors, si on s'en tient aux qualités qu'on est en droit d'attendre d'un film, qualité cinématographique, d'un film digne de ce nom, alors Reminder of Him est un film bien décevant. L'intrigue est cousue de fil blanc, en particulier la romance entre les deux personnages principaux. Dès qu'ils sont tous les deux en présence, dès le premier plan où ils sont en présence, on sent arriver au grand galop la liaison amoureuse entre eux. Ce n'est que vers la fin du film qu'on va apprendre la raison pour laquelle Kenna s'est retrouvée en prison, ce qui est très racoleur, parce que ça suscite la sympathie d'emblée du personnage. Je me dis, mais qu'est-ce qu'elle a fait cette brave fille qui a l'air si sympathique, si honnête, pour se retrouver comme ça, ostracisée par toute la population. le personnage de Kenna, donc, apparaît coupable de pas grand-chose, en fait. Encore une fois, pour ne pas aliéner le public. Et en même temps, les grands-parents qui ont la garde de la fille de Kenna semblent avoir tout à fait les raisons de traiter Kenna comme l'incarnation du diable. Il ne faut pas non plus, de ce côté-là, trop charger la mule en ce qui concerne les grands-parents. Autrement dit, on a une intrigue totalement artificielle, totalement bidouillée. La musique sirupeuse à souhait est là pour indiquer au spectateur quand il faut sortir son mouchoir. Pour ce qui est des acteurs, Micah Monroe fait le job, même si elle alarme un peu trop, l'alarme un peu trop facile et peut-être un peu racoleuse. Quant à Tyrique Withers, il n'a guère que sa grande taille et ses pectoraux à nous offrir. Avec ça, on a des décors plastifiés aux vives couleurs, un montage sans surprise et sans intérêt. En fait, tout dans ce film est sans surprise.
Mais alors, tu nous as dit quand même que tu ne voulais pas démonter le film. Alors, on attend, nous, toi aussi, tu ménages le suspense. Jusqu'à la fin. C'est pas un peu racoleur. C'est pas un peu racoleur.
Oui, un peu, mais oui, c'est vrai. C'est un peu jésuite. Alors, qu'on est. Ça, c'est pour introduire un des sujets qu'on va aborder plus tard. Alors qu'on est tout de même en droit d'attendre d'un film qui nous surprenne, voire qui provoque en nous un certain inconfort, et surtout qu'il évite les clichés. Voilà. Une fois qu'on a dit ça, on a le droit de vouloir passer 1h40 dans le seul but d'oublier les tracas et les inquiétudes du moment auprès de personnages sympathiques. Si c'est le cas, alors oui, on peut aller voir ce film qui tourne autour de thèmes comme le deuil, le pardon, la réconciliation. Et on peut, donc, si c'est ce qu'on cherche, on peut y aller. Ce n'est pas un film dangereux. D'accord. Il n'y a aucun problème. Il est assez, comme dire, dans les innocuous. Il ne fait ni bien ni mal. C'est le robinet d'eau tiède.
Ben, merci beaucoup, René, de t'être donné corps et âme pour nous, pour la gloire de Cinémascope. Merci donc. Reminders of Him, qui est à voir au navire à Aubenas et la semaine prochaine au Teil et à Cruas. Allez. Enchaînons, puisque tu as si élégamment donné quelques indices pour notre prochain film. On écoute Le Testament d'Anne Lee.
Notre avenir est à portée de main. J'en suis sûre. N'ayez pas peur. Nous avons fait d'énormes sacrifices afin de recevoir l'amour le plus fort qu'une femme puisse connaître.
Le Testament d'Anne Lee, donc, de Mona Fastvold, qui était la scénariste de The Brutalist, avec Amanda Seyfried notamment et Lewis Pullman. Vous êtes deux à aller le voir, Olivier et Frédéric. Frédéric, on t'écoute.
Oui, alors là, on passe à un niveau totalement différent de Reminders of Him. On a un vrai film de cinéma.
Heureusement.
Tout à fait, et ça, c'est un petit peu le sujet. Alors, l'histoire, elle est très très simple. On va suivre l'histoire de Anne Lee, qui est donc une vraie histoire, au 19e siècle, où en fait, elle est la fondatrice d'un culte religieux qui est connu sous le nom des Shakers. Il y a plusieurs centaines de personnes qui vont la suivre dans ses pérégrinations. Voilà.
On est au 18e siècle.
18e siècle, effectivement. Et donc, du coup, il faut remettre les choses en contexte. Donc, à cette époque-là, on n'avait pas encore le droit des femmes, le droit des noirs, mais également tout le confort qu'on a aujourd'hui. Et donc, du coup, on a un film un petit peu allumé. On a une performance d'actrice, on peut peut-être commencer par là. Donc, Amanda Seyfried, qui est absolument exceptionnelle dans ce rôle-là, puisqu'elle est tour à tour femme fragile, femme forte, un peu folle, totalement inspirante. Elle est prophétesse mystique, mais aussi quasi gourou. En fait, il y a une véritable adoration derrière son personnage, clairement. Et autant en tant que spectateur que les personnages dans le film. Ici, d'ailleurs, moi je trouve, après peut-être que mes camarades diront autre chose, mais moi je trouve que la religion dans ce film-là, c'est en fait le fond de l'histoire. On y parle donc du coup, c'est ce que je disais tout à l'heure, d'égalité, parce qu'à cette époque, il n'y avait pas de droit des femmes, il n'y avait pas de droit tout court, il y avait une sorte de société patriarcale. Et donc, ça, elle met un petit peu un coup de pied dans la fourmilière, et c'est pour ça qu'il y arrive tant d'aventures, et c'est pour ça aussi qu'il y a ce côté idéaliste, plutôt qui arrive à partir de la religion. Donc une sorte d'égalité voulue par Dieu, être investi par le divin, avoir une mission, et tout ça, tous les éléments qu'on retrouve dans le film, ça apporte en fait ce côté christique au personnage, qui n'est pas forcément tant voulu que ça par la réalisatrice, puisqu'elle elle met beaucoup de petits détails qui vont en fait enlever ce côté film religieux, par exemple la danse. Il y a beaucoup de numéros, c'est quasiment
c'est une comédie musicale.
Exactement. Mm-hmm. Je dirais plutôt un drame musical, mais effectivement, la danse jusqu'à la transe des personnages, oui, c'est intéressant, je trouve.
C'est ça, parce qu'il me semble, Shaker, ça vient de là, c'est ça. Elle, c'est les tremblements. Donc, elle voulait atteindre l'extase par les tremblements.
C'est la traduction littérale. Et en fait, le fait de rentrer en transe, ça permet en fait, d'arriver au bout de soi, au bout de son chemin qui est parsemé d'embûches. Voilà.
Ok, et donc toi, t'as reçu ce film comment, formellement, est-ce que formellement ça t'a paru en adéquation avec le fond, est-ce que, alors, par
c'est
exemple
c'est un film dense, très dense, il fait 2h20, il n'y a pas un seul moment vraiment sans aucun jeu de mots, et c'est un film où en fait nous-mêmes on sort de la séance totalement usé, fatigué, parce qu'on a eu beaucoup d'informations, on a eu beaucoup de mouvements dans le film, on a eu beaucoup d'histoires, beaucoup d'émotions également. Oui, oui.
Ah ouais, ça épuise. Moi j'ai entendu quelques critiques qui faisaient un petit peu le parallèle avec Sirat, juste dans l'ambition peut-être du réalisateur ou la réalisatrice d'amener les spectateurs à une forme justement de transe. Alors Olivier, toi, tu sembles pas, enfin que l'analogie avec Sirat, ça, je ne sais pas du tout, mais en tout cas l'objectif, enfin l'un des dessins peut-être était celui-là.
Je partage beaucoup des analyses de Frédéric. Je crois que bon, effectivement, c'est un film intéressant. C'est un film qui amène beaucoup d'informations. Toutefois, je crois que c'est un film qui reste au fond largement incompréhensible pour quelqu'un qui n'a pas de culture religieuse un petit peu fournie. Donc on est elle est née à Anne-Lee en 1736, et morte en 1784. Donc on est courte vie, 48 ans, on est au plein milieu du 18e. Il y a effectivement une erreur dans certains papiers dans la presse qui nous indique qu'elle est du 19e. Non, elle est bien du beau milieu du 18e, ce qui explique d'ailleurs les questions de droit des femmes et de droit des Noirs à l'époque. Déplacés dans le même écart au 19e, on n'aurait pas du tout la même ambiance. On part d'Angleterre et on migre vers les États-Unis. Et on part d'un phénomène que connaît la Grande-Bretagne à l'époque, qui est le réveil évangélique. C'est-à-dire, on est au sein de l'Église anglicane et un petit peu sur les bords du côté des églises protestantes. Hein. Donc voilà, luthérien. Mais enfin bon, l'origine, c'est quand même l'Église anglicane, donc par certains aspects quand même assez proche de l'Église catholique pour ce qui est de l'image enfin en particulier, voilà,
même du rituel d'ailleurs,
et même du rituel, oui, tout à fait. Donc voilà, et Anne-Lee elle connaît ce rituel. Et puis alors le renouveau dont il est question, qui donc ce réveil évangélique qui sera ensuite nommé, évidemment quand il passera aux États-Unis, ce sera nommé le grand réveil, hein, évidemment, parce que tout est grand quand il suffit de traverser l'Atlantique pour tout prendre des dimensions complètement différentes. Dans les 13 colonies anglaises de l'époque, on est au moment de la guerre d'indépendance, hein. Là aussi, les choses seraient pas du tout, mais vraiment pas du tout les mêmes au 19e. Hein. Là, on est au 18e, on est au début, avant l'indépendance des colonies anglaises. Et alors, qu'est-ce que justement ce réveil évangélique, et c'est là que je crois qu'une certaine culture chrétienne est utile. Alors moi, j'ai un petit peu cherché dans l'histoire religieuse de l'époque, et un commentateur dont je n'ai pas chopé le nom parlait de d'effusion providentielle de l'Esprit-Saint. Alors, donc, en fait, ce mouvement-là est assez peu évangélique au sens des évangiles, parce que il y a un prêche, mais c'est pas forcément de la lecture des évangiles et de l'Ancien Testament. C'est plutôt se mettre en position de recevoir la troisième personne de la Trinité, à savoir l'Esprit Saint. Effusion providentielle de l'Esprit Saint, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Esprit Saint est reçu. Et en lieu et place des prêches, de la théologie et de toutes les réflexions possibles et imaginables, c'est l'Esprit-Saint lui-même qui, providentiellement, indique aux croyants ce qu'il doit faire, où il doit aller et ce qu'il doit dire. Ne vous inquiétez pas de ce que vous direz, hein, l'Esprit viendra vous inspirer, etc. Donc on est dans cette conception très singulière de la religion. Qui est un, comme le Frédéric l'a dit, on est dans une ambiance d'égalité des sexes et des races complètes, puisqu'on est tous au même titre créatures de Dieu, et donc tous également en capacité de recevoir cette effusion providentielle de l'Esprit-Saint. Et je crois qu'un autre pan de culture peut être utile pour comprendre le film, qui est le renouveau charismatique occidental actuel.
Oui.
Où effectivement l'effusion de l'Esprit-Saint et la diction de l'Esprit-Saint est conçue comme l'événement ou le vécu religieux de base.
Et où va le film?
Moi, ce que j'ai trouvé d'agréable dans le film, c'est que si vous filmez les Shakers dans leur expérience spirituelle brute de décoffrage, façon documentaire, quelqu'un qui n'a pas la culture dit « bon, bah, on est rentré dans un asile d'aliénés, ils sont tous en train de nous faire une crise de clivage ou de décompensation ou je sais pas quoi. »
Des illuminés
au sens psychiatrique du terme. Hein. Et je crois que le bonheur du film est d'avoir choisi pour représenter ça la danse. C'est-à-dire on passe, c'est chorégraphié, du coup au lieu de
une sublimation. Peut-être.
Une sublimation. On peut parler d'une sublimation. Le fait que ça passe à l'artistique, au chorégraphié, mais aussi au chanté. Il y a une grande importance accordée à la chanson et aux paroles des chansons, c'est-à-dire au sens étymologique des cantiques, et c'est-à-dire des chants en direction des frères et sœurs, mais aussi en lien avec le Très-Haut, d'une certaine manière. Donc le fait qu'on passe à la danse et au chant nous permet d'éviter l'écueil de la glossolalie, du parler en langue incompréhensible et des mouvements corporels, eux aussi anarchiques, chaotiques et incompréhensibles. Donc là, il y a un avantage. Alors, le problème étant que je me demande de ce que peuvent voir et comprendre des gens qui ne connaissent ni l'inspiration historique des Shakers, ni sa version actuelle dans le renouveau charismatique. Parce que quelqu'un qui rapprocherait Anne Lee des évangéliques américains contemporains, ceux qu'on connaît, qui peuvent être rattachés à l'ultra-droite américaine, etc., ceux qui feraient ce rapprochement-là, effectivement, seraient complètement en contresens, quoi. Donc il faut... Puisqu'il était question de parler de religion au cinéma, je crois qu'effectivement le problème principal, c'est que on peut pas filmer la relation avec le surnaturel, quoi.
C'est pas évident. Il y a quand même une chose où je trouve que le cinéma a une force pour évoquer le religieux, c'est le fait que c'est une monstration. Or, on, par exemple, on fixe un cadre, un phénomène tout bête, un vase qui se brise, un souffle qui soulève de vent qui soulève la poussière, et suivant le plan qui suit, on peut évoquer quelque chose de l'ordre du sacré. C'est ce que savent faire les quelques très grands cinéastes qui ont filmé ça, comme je pense évidemment à Bresson, qui, ouais. qui si on, quelqu'un qui a vu le film Le journal d'un curé de campagne comprendra ce que je veux dire là. Il y a une autre chose qui est très important. Alors que dans la littérature, il faut expliciter tout ça. C'est beaucoup plus lourd, c'est beaucoup plus lent. Autre exemple, le phénomène du rituel. Tu as parlé de la danse. Je pense que, alors je ne sais pas si ça marche dans le film, mais à partir de la danse qui est une forme de rituel, puisque les pas sont ritualisés d'une certaine façon, on peut embrayer sur une dimension religieuse. Mais à partir de là, il faut un metteur en scène qui ait vraiment un sens profond du cinéma. Mais il y a cette espèce de raccourci qui est lié au fait que le cinéma, ce sont des images, qui permet au meilleur metteur en scène d'évoquer le sacré.
Oui, je suis assez d'accord avec René. J'avoue que bon, on en a parlé très très brièvement avant que l'émission commence, et j'étais moi dans une posture beaucoup plus sceptique quant à la capacité de montrer le sacré et le surnaturel au cinéma, comme en peinture d'ailleurs. Hein. C'est pas évident du tout. Et j'y réfléchissais et je me disais que par exemple un film qui m'avait enfant donné un frisson sacré, c'était L'homme qui rétrécit, dont il y a eu un remake avec Jean Dujardin.
Oh, tu nous en as parlé.
Oui, je vous en ai parlé. C'est parce qu'effectivement, tout le monde connaît cette histoire d'un homme qui rétrécit, qui devient de plus en plus petit jusqu'à atteindre la taille, on le suppose, d'un atome et au-delà, n'est-ce pas, dirait l'autre. Et effectivement, ça pose brutalement la question de la situation de l'homme dans l'univers. Et comme le souligne très bien René, il y a un savoir-faire cinématographique qui consiste à choper dans le visible quelque chose qui pourra être ensuite évocateur de l'invisible.
Mais c'est très dur à faire.
C'est très dur à faire. Et donc, dans le testament d'Anneli, je crois qu'on n'y parvient pas trop mal, en vertu de l'usage du chant et donc par conséquent de la musique, mais aussi de la danse. Mais toutefois, on est quand même. Elle a participé au film Le Brutaliste.
Hein, oui, c'est exemple. Ça, elle était scénariste.
Ouais, donc elle a un sens des Frédéric en a parlé, hein, de la densité, hein, un sens de la puissance filmique. Mais précisément, enfin, ceux qui connaissent l'Ancien Testament savent que Dieu ne se présente pas forcément dans l'orage ou dans la tempête, mais plutôt dans le souffle.
Il faut se retirer.
Mais peut-être, enfin, Élie, en tous les cas, le prophète Élie, entend Dieu non pas dans l'orage et dans la tempête, mais dans le souffle léger. Voilà.
Le paraclet.
Et je crois que, de ce point de vue, ce que René disait sur un souffle de vent en fonction du plan qui suit, oui, voilà. Et, évidemment.
Il faut être inspiré. Quoi.
C'est une grammaire, hein. C'est une grammaire, et par conséquent, derrière, c'est un style qu'on a ou qu'on n'a pas. Alors, je ne dirais pas que Mona Fastvolt, tient absolument ce style, mais en tous les cas, elle ne déroge pas. Personnellement, j'ai vécu le renouveau charismatique, etc. Et je m'attendais à un film qui pouvait soit devenir abusivement favorable, d'une certaine manière, ou alors au contraire une charge. Mmh. Hein, et je pense qu'elle maintient un équilibre assez satisfaisant.
Il n'y a pas ce côté moralisateur en fait,
tout,
qu'on
voilà.
pourrait trouver dans ce genre de film.
Exactement, voilà. Exactement. C'est intéressant ce que dit Frédéric, parce que justement le religieux, ce n'est, c'était ma proposition éventuellement de débat, mais le religieux, ce n'est au fond et essentiellement ni le politique ni le moral. Et on réussit à parler du religieux, c'est-à-dire en fait du spirituel lié à une divinité, à la divinité. On arrive à en parler mieux si on arrive à faire la part des choses entre ce qui relève de la morale, hein, ce qui relève de l'organisation politique des sociétés. On l'a vu avec Orwell 2+2=5, on voit comment l'organisation des sociétés peut complètement déraper avec des ersatz de religion. Hein. Donc il faut réussir à montrer que dans le religieux véritable se joue autre chose que de la morale et de la politique. Et comme ce quelque chose qui se joue est par définition invisible, C'est pour ça que j'étais arrivé avec l'idée que le cinéma n'était quand même pas forcément la forme d'art la plus favorable à l'expression du spirituel. Je dois admettre que, mais je dois admettre que René a répondu un petit peu à mon angoisse. Enfin, il s'agit pas d'angoisse, enfin mon inquiétude quoi. Quand à la. Et c'est vrai que j'étais plus prêt à dire que la musique était un art peut-être plus susceptible d'éveiller au spirituel. Je pense à évidemment les cantates de Bach les passions de Bach par exemple.
Il y a une autre dimension qui est en creux. Il y a aussi les films où le spirituel est délibérément, où on nous montre un monde où le spirituel a été totalement évacué. Oui. Je parle au film, on pense au film de Haneke par exemple. Oui. On sent que c'est des films où Dieu est mort en quelque sorte.
Oui, complètement.
Et ça, c'est aussi une façon d'aborder le religieux par le creux. Il y a ça, et il y a aussi tous les films à charge sur vis-à-vis du religieux, mais c'est pas toujours les plus réussis d'ailleurs.
Non, moi
j'ai quand même l'impression qu'à l'époque, la religion était au service du cinéma. On peut parler des grands films, même de Ben-Hur, les 10 commandements, jusqu'à même maintenant on a fait Noé avec Russell Crowe. Donc en fait, le religieux existe à travers le film. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on est un petit peu dans le contraire. Donc, le testament d'Anne Lee reste dans ce côté religieux qui sert le film. Et aujourd'hui, on a des films qui servent en fait le religieux. Par exemple, Sacré-Cœur. Ou même, encore pire, j'ai vu certains films d'animation ces dernières semaines qui sont sortis. On a Le Roi des Rois ou David. Oui. Où en fait, on a des films qui sont là uniquement pour montrer le côté positif de la religion.
Ce qu'on pourrait appeler des films saint-sulpiciens, quoi.
Tout à fait,
oui,
tout à fait.
Et des films de propagande.
J'hésitais à dire ce mot-là, mais effectivement, ce sont en plus des films qui ont été projetés par certains groupes et certains médias
très,
également.
Très marqués politiquement. Donc oui, on va peut-être passer à l'avenir, mais je voulais parler ici d'une représentation du religieux en tant que tel. Pas du dogme et pas de la politique et pas de la morale, bien sûr.
Eh bien, merci beaucoup. Il nous reste quelques instants. On va passer justement la chronique de Alexis qui a vu Projet Dernière Chance. On va d'abord écouter la bande-annonce.
Moi, c'est Grace. Toi, je vais t'appeler Rocky.
On est venu ici pour la même chose.
Lui aussi, il a son soleil qui meurt.
Si on veut sauver nos planètes, il faut trouver le moyen de communiquer.
Regarde ça.
Là, on a dans les 250 mots. On va trouver une voie.
Pourquoi simple prof dans l'espace ?
Non.
Pourquoi simple prof dans l'espace ?
Essayons ça.
Moi, Rocky. Je aimais.
J'ai vu Projet Dernière Chance hier soir au cinéma des Vences et j'en avais entendu que du bien au départ parce que c'est un peu l'éclaircie dans Hollywood, c'est le petit ovni commercial du moment qu'on s'attendait plus depuis un moment. Et alors on est tous d'accord, c'est un film grand public avec une star, un gros budget, c'est un peu l'archétype du gros blockbuster. Mais qui prend pas complètement le spectateur pour un idiot pour une fois, et ça faisait bien longtemps, et ça fait du bien. Et ce projet de Dernière Chance, on retrouve ce fameux Ryan Gosling qui, il n'y a rien de mieux que Ryan Gosling dans la comédie, parce que c'est aussi un film de comédie, c'est une science-fiction, mais un film de comédie, et à la réalisation de ce film-là, c'est Phil Lord et Christopher Miller, qui ont fait, alors pour ceux qui connaissent plutôt des films légers, donc 21 Jump Street par exemple.
21 Jump Street, autrement dit.
Ouais, et c'est d'ailleurs un peu surprenant qu'ils soient partis dans un film de science-fiction, qui est plutôt eux de la comédie pure, mais comme quoi en fait quand ils changent de ton et ils gardent quand même cette comédie, cet humour là, ils le mélangent avec la science-fiction et ça marche plutôt bien parce que ça apporte une certaine légèreté. Alors je vais juste dire l'histoire, elle est simple de ce film-là, c'est donc un homme qui se réveille seul dans un vaisseau spatial sans mémoire, c'est-à-dire vraiment le reboot total de la mémoire. Et en fait petit à petit dans ce vaisseau spatial il comprend qu'il est là pour sauver la Terre. Alors sur le papier, le scénario, il n'y a rien de révolutionnaire en soi.
Non.
Mais c'est important de dire tout de suite que voilà, le film il révolutionne pas le genre en soi. Mais dans ce film-là, il se passe quelque chose vraiment. Je dirais qu'on est entre Interstellar et Premier Contact, pour ceux qui l'ont vu. Donc Interstellar de Christopher Nolan et Premier Contact de Denis Villeneuve.
Ah oui, ouais,
et
non,
on
mais
sent que...
là tu dégaines la référence. C'est
Ah ouais, je
aussi.
dégaine la référence,
D'accord.
mais il faut, parce que faut que les gens se situent où ils en sont. Et il y a cette touche de comédie-là qui permet vraiment d'avoir ce contact beaucoup plus humain, parce que les films spatiaux, etc., ça nous met souvent une petite distance, on ne se sent pas forcément concerné. Il y a cette comédie qui nous permet de nous accrocher en tant que spectateur et de se raccrocher à cette touche d'humanité. Et c'est vraiment ce qui fonctionne dans ce film-là. Et c'est ce que je disais, c'est ce que je disais, pardon, Ryan Gosling, il est vraiment étonnant là-dessus, c'est que lui, il apporte cette touche de comédie que les réalisateurs voulaient, on s'identifiait à ça. Et puis, dans ce film-là, il y a une relation inattendue, vous découvrirez au fur et à mesure, mais c'est toute l'intrigue du film en soi, et c'est ce qui donne toute la proximité, la chaleur de ce film-là. Et pour vous dire, ces grands thèmes, c'est vraiment un film sur, je dirais, sur quoi? Sur la coopération et sur l'intelligence à comprendre la capacité de l'autre sans le même langage. Vous allez comprendre pourquoi, parce que vraiment, si vous avez eu premier contact, on est quand même sur les mêmes bases. Et voilà. Et moi, je suis hyper content parce que pour une fois, Hollywood, ben voilà, il y a un film révolutionnaire entre les franchises, les reboots, les suites à répétition. Là, on a un film qui est original. Et c'est vrai que dans cette industrie, on a parfois l'impression que c'est un peu le pilotage automatique. Et c'est là que le film, il surprend. Donc voilà, allez voir ce film parce que justement, c'est un petit coup de pied dans la fourmilière d'Hollywood. Et si ça permet d'avoir... si ça permet d'encourager... L'industrie qui est vraiment au fond du gouffre, ça permet de les encourager à faire des films plutôt osés comme celui-ci, même si ça n'a rien de révolutionnaire. Et ben moi je dis oui tout de suite. Voilà, et on a tout de suite envie de prendre le pop-corn et de se poser devant.
Voilà. Donc, pas révolutionnaire quand même, hein, mais un peu
Non.
original, avec Ryan
Ouais.
Gosling et Sandra Hüller, l'excellente
Et
Sandra Hüller.
Sandra
Alors, je
Hüller, j'ai
sais.
pas précisé, c'est
Ouais, je
vrai
sais
qu'il y
pas
a un
si.
rôle un peu plus secondaire, parce qu'on voit plutôt Ryan Gosling quand même sur l'écran. Et petite chose technique quand même, on verra que le film il est tourné assez par, enfin c'est assez particulier, c'est-à-dire que on est sur, alors c'est peut-être très technique, mais on est sur un 1,78 flat, ça veut dire que l'écran il est plutôt un peu plus réduit au niveau du format sur certaines scènes, et en fait, vu qu'on va avoir des retours en arrière, dès que c'est des retours en arrière, l'écran va être plus petit, dès qu'on va arriver dans ce voyage spatial, l'écran va s'agrandir, il va se transformer en 1,85, donc ça veut dire que l'écran va s'agrandir et on va avoir une différence de format qui nous permet de nous émerger tout de suite entre l'arrière, enfin le passé et l'immensité du spatial. Voilà.
Ok, eh ben merci beaucoup Alexis. Donc projet Dernière Chance de Phil Lord et Christopher Miller qui est à voir à Aubenas, au Quinconce et au Vence.
Exactement.
Exactement. Et ce soir, pour terminer dans l'agenda, ce soir il y a Le Rêve américain d'Anthony Marciano à la Salle Vesprade qui est projeté à Tueil. Et puis au Teil, il y a en avant-première Juste une illusion, le nouveau film d'Olivier Nakache et Eric Toledano, dont on parlera peut-être la semaine
Ouais,
prochaine.
l'adolescence des années 80, oui, ça peut être intéressant aussi. Ça ferait un thème de discussion aussi.
Alors, sur l'adolescence des années 80 ou sur les années 80, là, j'ai l'impression que c'est fou
Voilà.
l'année 80. Il y a aussi.
Ouais. Les années 80, pourquoi pas, oui, c'est intéressant, hein. Qu'est-ce qu'on était bêtes.
Ah oui, mais tu nous vends du rêve et en fait, tu ne seras pas là la semaine
Ah
prochaine.
oui, c'est vrai, oui.
Ah bah, flûte, alors les années 80 sont
Bon,
toi. Bon.
on fera une petite insert téléphonique, si vous voulez, depuis la capitale.
D'accord. Merci beaucoup à tous les trois, Frédéric.
Merci.
Merci Olivier, merci René d'être venu parmi nous et merci Alexandre pour la technique de cette émission. On se retrouve vendredi prochain pour plus de cinéma encore. Ciao!
Voilà.